This is CKCU Literary News, les actualités littéraires dans le monde francophone.
Voici le Montréal, la recrue du mois, présentée par Lucie Renaud, rédactrice en chef.
La recrue du mois, chaque mois le 15, le premier roman québécois en vedette, pour vous donner une meilleure idée de ce que la production d'ici nous réserve.
Une coproduction de la Recrue du Mois et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanska Hager-Ruprecht.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux actualités littéraires sur CKCU. Lucie Renaud, rédactrice en chef de la Recrue du Mois, au microphone. Je reçois la toute première Recrue du Mois. Il y a 5 ans de cela, en octobre 2007, nous lisions le premier roman de Danny Leclerc, « Le sang des colombes », qui était paru chez VLB. Nous le retrouvons 5 ans plus tard pour parler évidemment du parcours, revenir un peu sur le premier roman, parler de son deuxième roman, « Le Saint-Christophe », qui sera disponible ces jours-ci dans les librairies, et échanger sur écrire au quotidien, ce que ça veut dire quand on a aussi, bien sûr, une vie parallèle en dehors de tout cela. Alors, bienvenue, Dany, à l'émission.
Bienvenue.
Alors, si on revient il y a 5 ans, on peut rigoler, mais tu seras toujours notre première recrue. Est-ce que ça avait fait quelque chose dans... Qu'est-ce que ça t'avait fait, jadis autrefois, il y a 5 ans, d'être la première recrue?
Ben déjà, en partant, un gros velours, hein, parce que on a toujours peur quand on écrit. Il y a tellement de trucs qui se publient, il y a tellement de livres qui sont publiés année après année... de passer un peu inaperçu, de passer dans l'ombre, de passer dans le beurre. Puis déjà qu'il y a un site, qu'il y a des lecteurs qui prennent la peine de me lire, de me critiquer en plus, d'écrire donc des papiers virtuels, mais des papiers quand même, sur mon livre, ben, ça m'assure au moins qu'il y a bon, 4-5 personnes qui l'ont déjà lu en partant, qui l'ont bien lu hein, quand même. Alors, c'est sûr que ça fait un petit vlog. Au moins, il y aura ces personnes-là, en plus de ma famille, en plus de mes amis, mais il y aura ces personnes-là qui m'auront lu. Donc, c'est un grand plaisir, un grand privilège en partant.
Alors, les réactions, quand... c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment revenir 5 ans en arrière d'un coup de baguette magique, mais quand tu avais lu les commentaires, comment avais-tu réagi? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Ou est-ce que tu t'étais précipité le 15 pour voir, mon Dieu, mais qu'ont-ils dit sur mon livre? Comment ça s'était passé?
Quasiment sortant du lit. Hein, j'ouvrais l'ordinateur, je voulais savoir c'était quoi les réactions. Parce que c'est ça, quand c'est les amis, la famille qui lit... ils ont bien beau dire qu'ils sont objectifs, mais bon, il y a toujours un petit côté un peu biaisé. Bon, ils ont peur de nous blesser. S'il y a quelque chose qu'ils aiment pas, ben, ils nous le diront pas, ils vont le cacher. Ils vont surtout axer leurs commentaires sur ce qu'ils ont aimé. Là, j'avais des commentaires vraiment objectifs. Ça a été dur dans certains cas, parce que c'est pas tout le monde. C'est pas vraiment facile. C'est pas tout le monde qui aimait ça. Puis je les ai lus récemment, la semaine passée, justement, quand je savais que j'allais faire cette entrevue. Je les ai relus. Puis, avec du recul, 5 ans plus tard, je me dis, ben merde, dans le fond, il n'y avait pas tout à fait tort. Il y a des trucs qui m'avaient écorché un peu quand je les avais lus, il y a 5 ans. Je me disais, ah non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Ou non. Mais 5 ans plus tard, en les redisant, je me disais, ouais, ben c'est vrai que c'est là. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui accroche là, qui m'a aussi, 5 ans plus tard, m'agace, que je réécrirais autrement, que je referais différemment. Donc, plaisir de se faire lire, mais aussi un petit peu de pas d'amertume, le mot serait trop fort, mais un peu d'orgueil blessé d'avoir été critiqué. Mais on s'expose à ça aussi.
Hein. On écrit pour l'autre, en principe.
Oui.
Sinon, on n'a pas besoin de publier.
Oui.
Donc, ce premier roman était un roman politique, un roman qui s'intéressait au terrorisme à l'étranger. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'avait interpellé là-dedans?
Le plus vieux souvenir, parce que c'est un roman que j'ai traîné longtemps. Je l'ai... Il était publié en 2007, puis déjà, les premiers plans, les premières lignes ont été écrits en 95-96. Donc, c'est bien, bien avant, même avant les événements du 11 septembre 2001. Déjà, ça me travaillait. Puis le point de départ, ça a été la condition humaine de Malraux. Donc, au départ, il y a le personnage de Chen là, qui fait un assassinat, qui va justement s'investir dans une cause. Puis je me suis demandé, moi aussi, jusqu'où je pourrais aller pour une cause comme ça. Donc, ils sont des êtres exécrables, mais qui, en même temps, sont des humains. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie normale, ils ont des amis, ils ont des parents, ils peuvent tomber en amour. Donc, c'est tout ce paradoxe-là que j'ai voulu un peu montrer dans Le sang des colombes. C'est le personnage de Roman, qui est un terroriste, qui est un être parfaitement dégueulasse, qui s'en va s'installer dans le petit village, mais qui, finalement, est très sympathique. Les vieilles madames l'aiment, tous les gens l'aiment, il va tomber en amour aussi. Donc, c'est ce paradoxe-là là, que j'ai voulu montrer, comment on peut en arriver là.
Mais est-ce que d'être un étranger dans un petit Saint-Alexis, c'était... ça avait du sens? C'était comme un des commentaires qu'on avait relevé. Mm-hmm. Le pur laine, est-ce qu'il peut accepter l'étranger d'une façon aussi ouverte que cela?
Ça, c'est un des critiques qu'après coup... Bon, il y a les prénoms aussi des jeunes filles, etc., que je changerais maintenant. Là, Nadja, c'est vrai que ça fait pas très québécois. Il y a un coup de cœur, un ancien amour que j'ai voulu insérer là. Mais ce personnage-là, que ce soit un étranger, ça aurait pu être un Québécois, effectivement. Peut-être que ça aurait été plus crédible. Mais en même temps, je pense qu'il y a une part d'inconscient, il y avait une espèce de détachement. Je voulais pas qu'il soit Québécois. Parce que s'il avait été Québécois, là, ça aurait vraiment... mis la violence trop près de nous. Là, à mon sens, ça aurait été peut-être encore plus invraisemblable que ce soit un Québécois qui soit aussi violent. Tandis que là, que ce soit quelqu'un, un étranger, qui vient d'Europe, qui a justement une espèce d'historique génétique de cette violence-là, ça me paraissait plus crédible. Mais je me suis longtemps questionné. Est-ce que c'est un étranger, c'est un Québécois? Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit justement un survenant. Quelqu'un qui survient dans un village, qui vient changer cet univers-là, et qui va justement créer une espèce de trailer. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va rester comme il est, méchant, un assassin, ou est-ce qu'il va se transformer et qu'il va adapter les habitudes de vie de Saint-Alexis?
Mais moi, ce que j'aime aussi de son prénom, évidemment, Roman, si on le prononce autrement, on a Roman. Oui. Alors, ce qui fait que je trouve qu'il y a un petit clin d'œil quand même... au fait qu'on est dans un livre, qu'on est dans une fiction et tout ça, qui permet une certaine distance pour le lecteur jusqu'à un certain point, peut-être. Alors, si on parlait maintenant de ton deuxième roman, Le Saint-Christophe, qui est dans un univers absolument complètement différent, on n'est pas du tout dans la même musique, certainement, parce que si je comprends bien, il y a une certaine référence, justement, peut-être à la musique, ce qui se passe dans les années 90, une rythmique. Qu'est-ce qui t'a inspiré ici pour Le Saint-Christophe?
Dans Saint-Christophe, là, je suis en ville. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est Christian Gingras, le personnage principal, qui part du Saguenay, qui s'en vient étudier à Montréal, qui s'en vient pour rejoindre, entre autres, sa blonde. Donc, c'est un roman qui est urbain, qui est montréalais, et ça se passe au début des années 90. Donc, c'est un roman, mais aussi un aspect un peu chronique. Dans Saint-Christophe, là, je suis beaucoup plus dans des thèmes plus accessibles. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va tomber en amour... donc, des histoires d'amour déçu, d'amitié trahie. Donc, c'est une espèce de roman d'apprentissage. Un jeune homme qui n'a pas encore 20 ans, qui apprend c'est quoi la vie.
Qu'est-ce que tu voulais transmettre qui te semblait le plus intéressant là, des années 90, finalement?
Ben, ce qui m'intéressait surtout, c'est que c'est l'époque avant Internet, avant le développement du web, entre autres, où je pense qu'on avait une relation aux autres un peu différente. Donc, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'Internet. Facebook n'existait pas. Moi, je me suis branché sur Internet en 96, puis déjà, c'était une révolution exceptionnelle. Mais le début des années 90, on n'avait pas ça pour nous distraire. Donc, c'était tout un autre monde, un autre univers. On lisait plus, en tout cas pour ma part, je lisais plus de livres, j'écoutais plus de musique. Puis bon, c'est l'époque où moi aussi j'avais 20 ans. Il y a une part quand même partiellement autobiographique dans ce roman-là aussi. Je m'en cacherai pas. Mais c'est une époque qui pour moi est très très riche. Toutes les origines de mes goûts musicaux, Guns N' Roses, Metallica, Nirvana. Donc je parle entre autres du suicide de Kurt Cobain dans ce roman-là, qui est un incontournable. Le show raté au Stade Olympique de Guns et Metallica. Mon personnage veut y assister finalement. Il pourra pas. Découvrir pourquoi. Mais c'est une époque qui, pour moi, est très, très riche. Et c'est en même temps le début de l'université. C'est le premier appartement, c'est les études universitaires, les premières difficultés. C'est les premiers contes qui arrivent, qu'on a payés.
Donc, c'est vraiment une relecture du roman d'apprentissage d'une certaine façon, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui le rend différent de tous les autres, idéalement.
Idéalement, déjà parce que c'est le mien.
Oui. Alors, qu'a-t-il de particulier par rapport à tous ces romans d'apprentissage, finalement, à part, évidemment, qu'il est dans les années 90?
Ben ça, moi, j'en ai lu quand même quelques-uns, entre autres, je pense à Balzac, là, les illusions perdues, Goethe, etc. Même Candide, à la limite, qui est aussi un roman d'apprentissage particulier, mais quand même. Mais c'est un roman d'apprentissage particulier, d'abord parce que il y en a au Québec, mais pas pour la vingtaine, c'est plus des jeunes adolescents. On a beaucoup de romans sur l'enfance au Québec, mais des romans sur le début de la vingtaine, où pourtant, c'est une époque qui est charnière. C'est une époque où les adolescents deviennent des adultes, ont plein de responsabilités. C'est une époque qui est importante, mais en tout cas, j'en connais pas beaucoup de ces romans-là qui vont parler de cette importante transition.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous en lire un extrait pour qu'on se mette un peu dans le bain?
Donc, j'essaie de prendre un extrait qui est pas trop cru, mais qui en même temps donne le ton, là. Donc, on est au début du roman, c'est dans les tout premiers chapitres. C'est ainsi que j'ai appris que je ne serais plus le seul exilé saguenéen de la gang à Montréal. Du fin fond de ma petite ville tranquille où le monde tournait trop lentement à mon goût, où l'écho des esprits trop étroits résonnait dans des espaces trop vastes, j'avais appris à désirer Montréal. J'avais été envoûté par tous ces appâts que je lui avais découverts à travers mes lectures, à travers mes fantasmes. À ma première année de cégep, le hasard m'avait fait découvrir Vamp de Christian Mistral. Le style m'avait soufflé, le rythme fiévreux de la ville m'avait séduit. Ce roman avait confirmé ma passion pour la littérature et pour moi, la littérature, c'était désormais Montréal. Montréal l'envoûtante, Montréal la délirante. L'autre raison qui m'avait poussé à déménager à Montréal, c'était Sarah. Elle était originaire de Magog et je l'avais connue l'été de mes 17 ans quand elle accompagnait ses parents dans leur tournée touristique annuelle du Québec. Ils s'étaient arrêtés au Saguenay, au camping municipal où je passais une partie des vacances à jouer au volley-ball avec mes amis, et je suis tombé dans ses filets. Entre deux parties, elle s'était approchée de moi en me demandant de lui enseigner la bonne technique pour faire des manchettes. Elle s'était alors amusée à en faire quelques-unes, coinçant ses deux énormes seins entre ses bras pour les mettre bien en évidence, exigeant que je regarde comme il faut pour lui dire si tout était correct. C'était plus que correct. Et quand sous mes yeux ébahis d'adolescent encore puceau, elle a ensuite étiré le tissu de son maillot pour secouer le sable qui y était soi-disant collé, que j'ai pu admirer à la dérobée la forme sombre de ses aréoles, j'étais vaincu.
Merci. Ça donne déjà envie de plonger dans l'univers, je dois dire. Alors, tu enseignes la littérature à des jeunes, donc de l'âge ou à peu près de ton héros. Est-ce que tu considères que la littérature, pour eux, c'est ringard? Est-ce que ça se porte mieux? Est-ce que c'est plus facile à transmettre? Pire, c'est pareil?
Nous, à Saint-Jean, où j'enseigne, le cours de littérature québécoise est en fin de parcours. C'est 3e session. Là, on voit qu'il y a un intérêt plus marqué. C'est notre littérature, c'est leur littérature. Puis même s'ils n'aiment pas toutes les œuvres, au moins, on voit qu'il y a une espèce d'identité, en tout cas de désir d'identité à ces livres-là. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours plein d'autres choses qui sont plus intéressantes que la littérature, mais on les amène toujours à réaliser qu'ils ne peuvent pas se passer de la lecture, de la littérature, même si on a Internet, même si on a les textos, il faut qu'ils apprennent à lire, à bien lire. Donc, quand on arrive à la littérature québécoise, ils ne sont pas trop rébarbatifs, je dirais.
Okay.
Moins que la littérature française.
Donc, dans ton cursus, quel livre québécois leur proposes-tu?
Une de mes œuvres fétiches au Québec, c'est Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais, que j'ai mis à peu près 5-6 fois, que j'ai relu à peu près 20 fois, puis à toutes les fois, je retrouve quelque chose de nouveau dans ce roman-là qui... Écoute, Marie-Claire Blais avait même pas 25 ans quand elle a écrit ça, puis moi, je suis toujours sur le dos quand je lis ce roman-là, je me dis comment elle a fait pour écrire ça. C'est une œuvre majeure pour moi. La dernière session, j'ai mis... Ça, c'était pas facile pour les étudiants. Les grands-pères de Victor Lévy-Beaulieu, qui est un auteur, c'est un géant au Québec, mais qu'on lit pas beaucoup, qu'on fait pas lire beaucoup. Et pourtant, c'est un auteur qui est très riche, mais les grands-pères, ça dépasse les étudiants. Ça me dépassait moi-même quand je l'ai lu. Je fais comme, oh boy, gros morceaux, là. Donc VLB, Mistral aussi souvent. J'essaie beaucoup de faire lire des jeunes. J'ai fait lire Sébastien Chabot, qui est un jeune auteur que j'aime beaucoup.
En tant qu'enseignant, bien sûr, tu ne peux pas intégrer l'écriture de 9 à 5 dans ta routine, clairement. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu découpes des plages déjà déterminées? Je ne sais pas, tous les mardis entre 9h et 10h, tu écris. Comment l'écriture s'inscrit dans ton quotidien?
Bien, pour moi, c'est toujours très long. Chaque roman, je disais tantôt que la première idée, le premier germe du sang des colombes, c'était en 96, 95. Donc, avant que je me mette à écrire, ça a été très, très, très long. Avant que je réalise que pour avoir écrit, il faut écrire. Parce que je pense que chez beaucoup de gens, il y a ce fantasme-là de rêver d'avoir écrit, d'avoir un roman. Mais pour le faire, il faut s'asseoir, il faut s'installer, puis il faut prendre le temps de le faire. Donc, moi, mon problème... Certaines personnes disent que l'écriture, c'est une souffrance. Moi, c'est pas une souffrance. Ce qui est une souffrance, c'est trouver le temps pour écrire. Une fois que j'ai trouvé le temps, là, ça va. Puis souvent, bon, j'enseigne, je travaille, j'ai des corrections toujours à pu finir. J'ai deux filles en plus, deux jeunes filles. Alice qui va avoir 2 ans, Florence qui va avoir 6 ans. Donc ça aussi, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc le seul temps qui me reste souvent, c'est le soir. Donc, moi, ça va bien. Je suis un lève-tôt puis un couche-tard. L'après-midi, j'en arrache un peu plus, mais je peux me coucher à minuit, 1 heure. Donc, j'ai réussi à écrire très tard. Puis c'est ces moments-là où j'ai écrit principalement. Le sang des colombes, plus par temps perdu, c'est un peu différent. Mais le Saint-Christophe, c'est un roman nocturne. C'est un roman de soir. Puis il n'y a pas beaucoup de scènes de jour non plus, ça sent. Mais c'est surtout le soir que ça se passe. Puis par moment, justement, pas tous les soirs, parce qu'on peut pas tout le temps, on est fatigué, etc. Donc, c'est de trouver le temps qui est difficile.
Mm-hmm.
Mais vraiment pas de 9 à 5.
Alors là, si je comprends bien, il doit y avoir un projet de troisième roman qui mijote si
oui.
On cherche du temps pour écrire. Sans vendre la peau de l'ours avant.
Non, on n'est pas rendu très loin encore. J'ai un plan, j'ai des personnages... J'ai un titre que ça, je ne dévoilerai pas tout de suite, mais c'est un roman à 8 personnages qui va se passer. Là, je retourne dans la ruralité. Une espèce ça va être un espèce de cursus, mais ruralité, urbanité, ruralité. Parce que le quatrième aussi est déjà prévu, puis ça va être un roman, celui-là, urbain. Là, je retourne dans mon Saguenay natal et je raconte la fermeture de l'usine de pâte et papier de Port-Alfred.
Okay.
Et c'est à travers les 8 personnages, justement, qui vont être marqués de façon différente par cette fermeture-là. Ça va être un roman très humain aussi, donc je vais m'attarder à ces personnages-là, voir comment ils vont vivre cette fermeture-là et comment ils vont survivre ou pas à cette fermeture-là également. Parce que c'est un drame épouvantable là, qui vient... Port-Alfred, c'est une ville qui a été construite autour de l'usine. Donc si tu enlèves l'usine de la ville, il ne reste plus rien, à part l'église, l'école... Mais si t'as pas de travailleurs, t'as pas d'enfants. Donc, c'est une ville qui s'est relevée, mais qui, depuis 10 ans, là, a eu beaucoup de difficultés. J'ai des oncles qui ont donc vécu ça de très, très près. Donc, ça va être un roman sur ce drame humain-là.
Excellent. Donc, en tant que première recrue, on t'a brimé d'une chose, jadis, parce qu'il n'existait pas, le questionnaire de la recrue. Alors, j'aimerais te proposer, en terminant, de choisir 3 numéros au hasard entre 1 et 40 et que je te pose des questions. En fait, c'est un peu truqué parce qu'habituellement, on transmet le questionnaire de 40 questions aux auteurs qui peuvent choisir lesquels 10 les interpellent le plus et tout ça. Alors là, comme tu es le premier, on te laisse même pas la chance. Alors, il faut choisir correctement tes numéros chanceux. Alors, un premier numéro.
J'aime beaucoup le 7.
Alors, donc, tu viens plus ou moins nous en parler. Alors, c'était « Avez-vous un rituel d'écriture? » Alors, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être que tu as besoin d'un café avant de commencer à écrire ou que tu fais 3 fois le tour de ta chaise. Est-ce que tu as un rituel d'écriture?
Je vais parler plus pour le Saint-Christophe, parce que là, pour le troisième est un peu tôt pour parler de rituel, ouais. Qui n'est pas encore installé. Mais Saint-Christophe, c'est un roman de soir, je le disais tantôt, mais c'est un roman de salon aussi. C'est-à-dire que je m'installais le soir quand les filles étaient couchées, quand ma blonde aussi était couchée. Je borde mes filles, je dis ça souvent. Je borde mes filles, puis je descends ensuite dans le salon, j'ouvre la télé, je me débouche une bière, puis là, je commence à écrire le Saint-Christophe. Souvent, parce que je déteste le poids du silence à la maison, j'ai de la misère avec ça, donc ça me prend toujours quelque chose en sourdine. Des fois, ça va être j'ai une trame sonore du Saint-Christophe que je me dévoilerai un jour, entre Guns, Metallica, Nirvana, etc. Mais j'avais souvent, j'étais un amateur de sport, j'étais un fan fini des Steelers, j'écoute le hockey, puis j'insiste vraiment sur le thème, j'écoute le hockey, c'est-à-dire que je mets le son en sourdine, je le regarde pas, ça m'intéresse pas, mais quand il y a des buts, quand il y a des beaux jeux, l'animateur s'énerve, s'excite, je l'entends, donc là, je vais lever les yeux. Mais ça me prend, la télé doit être ouverte. Donc, okay. Mais c'est un, dans le salon, avec le portable sur mes genoux. Le portable a été une révélation dans ma vie. Pouvoir écrire n'importe où, pas enchaîner dans le bureau, dans mon bureau obscur. Là, dans le salon, près de la télé.
Excellent. Donc, deuxième question, deuxième chiffre.
On va y aller avec les multiples de 7, 14.
14. Alors, mais, décidément, tu devances toutes les questions. Avez-vous un lieu privilégié pour écrire?
Le salon. On peut en choisir une autre, tu sais.
Alors, on va te proposer un autre numéro.
17.
17. Alors, vos inspirations. Vous intéressez-vous à ceux qui, comme vous, publient des premiers romans ou des premiers ouvrages?
Oui, ben, je lis beaucoup. Hein, je lis. Je le mets maintenant sur Facebook parce qu'à un moment donné, on m'a posé la question combien de romans lisez-vous, combien de livres lisez-vous par année? J'en avais aucune idée. J'étais impressionné par les gens qui disaient 50, 100. Finalement, je tourne autour de 50 par année. Puis je lis essentiellement du québécois. Souvent, pour me donner une pause, je vais lire des romans policiers ou des trucs un peu plus légers, science-fiction, etc. Mais je lis beaucoup, beaucoup de ce qui se publie dans l'actualité québécoise. Entre autres, il y a beaucoup de recrues, justement, que j'ai lues. J'essaie de m'en rappeler. Genre, Simon Desrochers, entre autres. Voyage léger de Mélissa Véro. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui m'interpellent. Arvida, évidemment, de Samuel Archibald. Mais je colle beaucoup à l'actualité. Moi, j'ai pas cette espèce de peur-là d'être influencé ou d'être marqué par mes contemporains. Entre autres, je trouve qu'ils me nourrissent. Ça me montre qu'il y a une littérature qui est vivante au Québec, qui est intéressante. Puis il y en a tellement maintenant de premiers romans, de premières œuvres. C'est fou. Il me semble que, il y a 20 ans, c'était tout le temps des vieux routiers qui sortaient les romans à chaque année. Quand on avait un nouveau roman, c'est comme, waouh, une nouvelle voix qui s'élève en littérature. Aujourd'hui, il y en a des dizaines quasiment par année. Tu fais comme, waouh, ça sort d'où? Mm-hmm. C'est cette foison-là de nouvelles auteurs, de nouvelles voix. Olivier Tapiero, il y a plein de jeunes, nouveaux auteurs qui, moi ça m'excite. Ça me montre que la littérature québécoise, là, c'est pas mort. Au contraire, c'est effervescent. Il y a une richesse-là qui est intéressante.
Bien, merci. C'est une excellente façon de terminer, le fond, avec les premières œuvres. Alors, je rappelle que Dany Leclerc, première recrue il y a 5 ans, sort son deuxième roman, Le Saint-Christophe, ces jours-ci, en octobre, ou en fait, au moment où vous entendrez cette émission, sera déjà sur les tablettes. Alors, on vous invite à le découvrir et à nous laisser des commentaires s'il y a lieu. Alors, merci beaucoup.
Au plaisir.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!